Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique. C'est ainsi que commence et c'est ainsi que se termine ce psaume, qui se fait reconnaître de cette manière comme un psaume de louange. C'est un psaume qui essaye de nous mettre dans l'attitude de la louange et qui nous donne en même temps des mots pour exprimer cette louange. Mais comme vous le savez, la louange ne se commande pas. La louange est une réaction de notre part à quelque chose qui nous a frappé, à quelque chose qui nous a ému ou qui nous a saisi. Il en va de la même façon des psaumes de l'autre type de psaume, des psaumes de détresse. Une prière de détresse, une prière de supplication, c'est celle qui monte de notre cœur quand nous sommes dans une situation de tristesse ou de malheur qui nous a frappés. On a pu montrer que l'ensemble du psautier, qui, dans la Bible, constitue le livre où ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est l'être humain qui parle pour répondre à la parole de Dieu. Et bien que l'ensemble de ces psaumes pouvait se répartir en deux sous-ensembles. D'une part, les psaumes de louange, d'autre part, les psaumes de détresse et les psaumes de supplication. Et ce qui est important, c'est que chaque fois, les psaumes de louange, les psaumes de détresse naissent, surgissent d'une expérience. L'expérience du bonheur, l'expérience de la joie, l'expérience de la merveille par laquelle on est frappé, dans le cas des psaumes de louange, l'expérience du malheur, l'expérience de la solitude, l'expérience de l'abandon, dans le cas des psaumes de détresse ou de supplication. Vous voyez donc que la prière n'est pas d'abord un discours que l'on adresse à Dieu, mais que la prière émane en quelque sorte de notre cœur, comme un cri qui répond à ce qui constitue les expériences fondamentales de la vie humaine, l'expérience du bonheur ou celle du malheur. Ce psaume 8 est un psaume de louange. Et comme vous le voyez, le psaume loue Dieu, mais il ne fait pas que louer Dieu. Il exprime trois raisons de louer, trois occasions de louange, qui constituent, pourrait-on dire, les trois strophes de ce psaume. La première expérience qui nous incite à la louange, c'est de constater que Dieu a dressé une forteresse contre ce que le psaume appelle l'ennemi revanchard. L'ennemi revanchard, c'est tout ce qui, pourrait-on dire, est une force destructrice dans la création. Vous voyez, et si vous vous souvenez du premier chapitre de la Genèse, que Dieu a créé le monde, la terre, comme un lieu ordonné, comme un lieu où les ténèbres ont été mises à l'écart, où la force chaotique des océans a été maintenue dans une limite, afin que la vie des animaux, la vie des êtres humains, soit possible. Mais dans la création, il y a des forces de désordre. Il y a des forces qui menacent la vie, comme la maladie, l'injustice, la violence, l'ennui, le dégoût de la vie, la dépression. Et précisément à cela, Dieu oppose une forteresse. Et cette forteresse, eh bien, c'est quelque chose qui nous émeut tous, les uns et les autres, à savoir les cris d'un bébé. Qui n'est pas sensible aux cris d'un bébé? Et je dirais même que c'est le signe même de l'inhumanité d'être insensible à un petit enfant, au vagissement d'un enfant, et pouvoir tuer les enfants. C'est l'expression même de l'inhumanité, c'est l'expression même de cet ennemi revanchard. Or, ce que Dieu oppose à ces forces de destruction, à ces forces d'inhumanité, ce qu'il oppose, c'est précisément l'émotion que nous éprouvons devant ce qu'on pourrait appeler la vitalité de la vie. Parce que ce que nous apprennent, ce que nous rappellent les cris d'un bébé dont vous connaissez la fragilité, la dépendance, mais en même temps il y a quelque chose d'éclatant et d'irrécusable dans le cri d'un bébé, à savoir cette vitalité de la vie. Et ce que ce cri nous apprend, c'est de reconnaître en nous-mêmes aussi le miracle d'être vivant. Parce que être vivant, participer à la vitalité de la vie, c'est un miracle. D'une certaine manière, être capable d'écouter, être ému par les cris d'un nouveau-né, c'est ce qui nous empêche de nous habituer à la vie. La deuxième occasion de louange qu'indique ce psaume, c'est que l'être humain, au regard du cosmos, au regard de l'immensité de l'univers, qui pour nous est des milliards de fois plus immense que pour l'auteur de ce psaume, parce que pour l'auteur de ce psaume, l'univers s'arrêtait au spectacle des étoiles. Eh bien, au regard de cette immensité, qu'est-ce que l'homme? Cet être fragile et insignifiant. Eh bien, Dieu se soucie de cet être. Et cela veut dire que cet être demeure un objet d'intérêt et un objet d'espérance pour Dieu lui-même. Nous n'avons pas été créés pour rien. Et vous vous souvenez que dans les psaumes, l'angoisse de l'être humain, c'est que Dieu nous oublie, de multiples psaumes, appelle Dieu en lui disant « Pourquoi détournes-tu ton visage ? Ne nous oublie pas, parce que si Dieu détourne son visage, nous sommes perdus. Parce que si Dieu nous oublie, nous serions jetés dans le monde sur le fond d'une indifférence absolue. » Vous voyez à quel point nous avons besoin, et besoin pour exister, et besoin dès l'enfance, d'être aimé, d'être reconnu, de valoir pour quelqu'un d'autre. Mais précisément, ce que le psaume affirme, c'est que Dieu s'intéresse à nous. Dieu a le souci de qui nous sommes. Et précisément, ça n'est pas un souci de la part de Dieu. Ça n'est pas un souci intéressé. Dieu ne se soucie pas de nous pour ce qu'il souhaite obtenir de nous. Il ne se soucie pas de nous pour ce que nous pourrions faire à son service. Mais Dieu se soucie de nous pour ce que nous sommes, pour qui nous sommes, chacun et chacune. Et c'est précisément pour cela qu'existe un terme comme le terme de vocation. Parce que si Dieu se soucie de nous, tout être humain a une vocation qui le caractérise et qui l'identifie et qui fait de lui, non pas un numéro parmi d'autres, mais un être unique et irremplaçable. Et si chacun d'entre nous a une vocation, cela signifie que chacun d'entre nous est un être en devenir et que nous sommes appelés à devenir celui que Dieu nous appelle à être. Et pas seulement tout seul, mais en aidant les autres à devenir aussi ce que Dieu les appelle à être. Enfin, la troisième occasion de louange, la troisième strophe de ce psaume, cet être dont Dieu se soucie, cet être que Dieu aime, eh bien, Dieu l'invite à régner sur la création. Les images, les termes de cette troisième strophe sont des termes royaux. Et ce sont des termes qui reprennent la manière dont le premier chapitre de la Genèse parle de la création de l'homme. L'homme qui est créé à l'image de Dieu. Voyez-vous, ce terme d'image de Dieu ne veut pas dire qu'il y aurait en quelque sorte une ressemblance physique entre Dieu et nous. Parce que le terme d'image de Dieu, c'est un terme qui en Égypte, en Mésopotamie, fait partie de l'idéologie royale. L'image de Dieu, c'est le pharaon, c'est le roi à Babylone. Eh bien, la Bible dit que ce qu'est le roi en Égypte ou à Babylone ou bien le pharaon en Égypte, ce qu'il est, c'est ce qu'est tout être humain dans la perspective de Dieu. Tout être humain est appelé à être l'image de Dieu, c'est-à-dire à exercer une fonction royale. Et cela d'ailleurs se retrouvera dans le Nouveau Testament dans l'Apocalypse qui parlera de l'humanité réconciliée comme d'un peuple de rois et un peuple de prêtres. Eh bien, cela veut dire que lorsque l'être humain exerce ce règne, lorsqu'il exerce sa liberté, lorsqu'il fait des inventions, lorsqu'il a des projets, cela n'enlève rien à Dieu. Au contraire, l'être humain fait ce que Dieu attend de lui. Mais en même temps, nous le savons, le règne des humains sur la terre n'est pas un règne de paix. Il n'est pas un règne bénéfique seulement pour la nature et pour l'être humain. Bien souvent, le règne de l'homme est une calamité pour la nature et pour l'humanité. À la fois, les êtres humains ont humanisé la nature. Ils ont humanisé la société. Et également, ils ont saccagé la nature. Ils ont détruit l'humanité. Et peut-être que la leçon de ce psaume est de nous suggérer que si l'être humain peut ainsi exercer sa violence, et une violence destructrice sur la nature, sur la vie humaine, c'est parce qu'il perd le sens de la louange. Le règne humain se corrompt quand ce règne n'est plus en rapport avec la louange, avec la gratitude, et j'ajouterais avec la capacité d'admiration. Quand nous perdons la capacité de recevoir, de nous émerveiller devant la beauté de ce que l'homme est capable de faire, devant la beauté de la nature, eh bien, tout cela devient, je dirais, uniquement une quantité disponible pour faire de l'argent et pour augmenter le circuit de l'argent, le circuit de la richesse. Et c'est alors que le règne humain devient un règne de l'avidité qui se caractérise par l'exploitation pure et simple de la nature et des richesses naturelles, sans considération de la nature elle-même, une exploitation des autres êtres humains et jusqu'aux enfants. Peut-être que ce qui peut mettre une limite ou un frein à cette avidité, à l'inégalité entre les êtres humains, à l'inégalité entre les êtres humains et la nature, c'est précisément la capacité de louer, de dire merci et de nous émerveiller. Voyez-vous, lorsque nous sommes capables d'émerveillement ou d'admiration, nous sommes capables de discerner quelque chose que nous ne voyons pas habituellement. Jésus, dans le sermon sur la montagne, dit une fois: la vie est plus que la nourriture. La vie est plus que le vêtement. C'est-à-dire que la vie que Dieu nous donne, c'est plus qu'être des consommateurs. C'est plus que nous approprier un certain nombre de choses utiles. Il y a une gratuité dans l'existence humaine. Il y a une gratuité dans la vie qui est source de joie et qui est source de liberté. Et si nous ne voyons pas cette gratuité, si nous ne pensons qu'à ce qui est utile, qu'à ce qui peut être mis en œuvre, qu'à ce qui peut être mis en valeur pour obtenir de l'argent, eh bien, nous perdons le sens du spirituel. Nous perdons le sens, tout simplement. Parce que ce qui donne du sens à la vie humaine, c'est ce qui dépasse l'utilité, c'est ce qui dépasse le bénéfice que nous pouvons tirer. Là où la louange disparaît, nous tombons dans l'insignifiant. Et c'est précisément pour cela que le psaume nous invite à redire encore une fois, Dieu, Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre. Et ton nom est magnifique parce que est magnifique la terre que tu nous donnes, est magnifique la vie que tu nous communiques. Amen.